Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Metz, ville juive, les deux attaques au couteau à l'encontre de passants et de policiers survenus ces derniers jours ont été commises par deux hommes présentés comme étant connus pour des troubles psychiatriques. Dans les deux cas, outre la question de la radicalisation, se pose donc aussi celle du discernement des auteurs au moment des faits. Comment mesurer le niveau de responsabilité d'individus connus pour des pathologies d'ordre psychique? D'un point de vue clinique, est-il possible d'établir une corrélation entre radicalisation et troubles psychiatriques? Bonjour Guillaume Monod.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, responsable de la consultation de santé mentale de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis et auteur notamment d'En prison, paroles de djihadistes, publié aux éditions Gallimard. Comment peut-on déterminer la responsabilité ou l'irresponsabilité pénale d'un individu?
Alors, c'est une question qui est très difficile à régler parce qu'elle repose sur deux choses. La première, elle repose sur l'examen clinique de la personne. Donc, il faut voir la personne. Idéalement, il faut la voir le plus rapidement possible après les faits. Idéalement, ce serait même le jour même. Et la seconde chose, c'est surtout son parcours de vie, surtout les antécédents. Ce sont deux choses qui sont malheureusement pas toujours, qu'on peut pas toujours obtenir. On peut pas toujours obtenir une expertise le jour même. Parfois, malheureusement, pour des raisons de justice, de procédure, ou même on n'arrive pas à attraper la personne tout de suite, on ne peut faire l'expertise que parfois plusieurs mois après. Donc une expertise psychiatrique sur un événement qui a eu lieu 6 mois auparavant, la valeur est quand même très très discutable. Et puis la seconde chose, ce sont les antécédents de la personne. Il faut aussi avoir, s'il y a un dossier médical, accès au dossier médical, s'il a été pris en charge, donc les gens qui ont pris en charge, et puis accès à la famille, aux gens qu'ils connaissent. Donc c'est sur deux piliers que ça repose et qui sont pas toujours faciles à obtenir.
Mais parce que l'on peut être temporairement irresponsable?
Alors oui, il y a également ce qu'on appelle des moments, ce qu'on appelle en termes techniques, ce sont les bouffées délirantes aiguës. Ce sont des moments qui peuvent durer quelques minutes à quelques heures, très rarement plus, dans laquelle la personne se trouve dans un état de déconnexion complète du réel. Ça peut être soit lié à une pathologie psychiatrique, donc il y a des types de schizophrénie, il y a des types de troubles de l'humeur qui peuvent donner ces moments de bouffées délirantes aiguës. Mmh. Pendant quelques minutes, quelques heures, la personne est complètement déconnectée du réel. Ça peut être aussi sous l'influence de psychotropes, tels que par exemple le cannabis, le LSD ou des drogues de synthèse.
Mais alors, est-ce que ce sont des circonstances atténuantes? Parce que si je commets un crime après avoir pris de la drogue ou après m'être alcoolisé, ça ne sera pas considéré comme tel, ou bien je me trompe, docteur?
Alors, il y a deux choses complètement distinctes qu'il faut bien considérer. Il y a l'aspect médical, il y a l'aspect juridique. Le psychiatre expert est là pour déterminer si, au moment des faits, la personne avait une altération ou une abolition du discernement. Ça, c'est le côté médical. Le juge va se servir du rapport de l'expert, sachant que le rapport est une aide à la décision. Mmh. Et le juge va se servir de ce rapport pour déterminer si ces conséquences, si ces circonstances-là constituent ou pas une circonstance atténuante. Donc la décision de savoir si effectivement c'est une circonstance atténuante, c'est une décision qui est judiciaire et non pas médicale.
D'accord, c'est-à-dire que vous essayez en quelque sorte de faire un jugement de fait. Mais alors, le problème, docteur Monod, c'est que lorsque l'on commet, par exemple, un attentat, dans le cas donc de ces attaques au couteau, j'utilise le terme générique sans entrer dans la catégorie juridique, d'attentat. Et on se dit que pour vouloir tuer des gens qu'on ne connaît pas, qui sont innocents, bref, il ne faut pas avoir toute sa jugeote, il ne faut pas être normal sur le plan statistique. Du terme, du coup, on se dit que ça n'est pas évident de se prononcer sur la responsabilité ou l'irresponsabilité de ces gens.
Alors, la statistique, c'est une chose. Un individu, c'en est une autre. Vous avez des gens qui sont effectivement, et j'en ai vu un certain nombre en détention, qui ont commis des actes de type terroriste, qui étaient parfaitement conscients de leurs actes, des raisons pour lesquelles ils les faisaient, qu'ils avaient élaboré, qu'ils avaient réfléchi pendant des mois, voire des années. Et puis, ponctuellement aussi, vous pouvez avoir des gens qui, dans un moment de déconnexion complètement du réel, dans leurs éléments délirants, vont se nourrir de la réalité du quotidien, vont se nourrir du discours public sur le djihadisme, Al-Qaïda, sur les forces de l'ordre et autres, et faire un passage à l'acte. Donc, un individu même, si vous voulez, ne fonctionnera pas sur le plan psychique comme un autre. Il n'y a pas de profil type du terroriste, il n'y a pas de profil type de l'attaque au couteau, il n'y a pas de pathologie de la radicalisation du terroriste. Ça n'existe pas. Il n'y a que des cas individuels, des cas particuliers.
Mais alors, ces cas particuliers, parce que ça va, alors récemment, cela a fait polémique avec Sarah Halimi, cette femme défenestrée parce que juive, et son meurtrier aurait été considéré comme irresponsable. Même chose pour les attaques au couteau. À partir de quand décide-t-on qu'un crime de ce type est commis par quelqu'un de lucide?
C'est toute la difficulté de la pathologie mentale, de la psychiatrie. On peut être lucide pendant des années, avoir des moments de déconnexion du réel. On peut avoir également une pathologie psychiatrique et puis arriver à fonctionner très bien dans la vie du quotidien et même avoir un métier. Hein. Il y a des gens qui sont schizophrènes. L'immense majorité des gens schizophrènes qui ont des troubles psychiatriques vivent normalement. Alors, avec un handicap psychique, avec un traitement, avec un accompagnement. Mais ils ne sont pas enfermés chez eux ou enfermés à l'hôpital. Donc, arriver à déterminer que telle personne a agi dans un état d'abolition du discernement, ça ne se répond pas comme ça d'une façon très très simple. Ça repose sur deux piliers. L'expertise qui devrait idéalement se faire au moment des faits et tous les antécédents de la personne. Et donc, une personne peut très bien avoir aucun trouble psychiatrique et à un moment donné, ponctuellement, être dans un état d'altération ou d'abolition du discernement complet. Et une autre personne peut avoir un trouble psychiatrique depuis des années et faire un passage à l'acte sans altération du discernement du tout.
Merci Guillaume Monod. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre et on vous doit notamment En prison, parole de djihadiste, un livre publié aux éditions Gallimard.